La légende de l'homme à la cervelle d'or et le phare des sanguinaires, extrait des lettres de Montmoulin, Alphonse Daudet. La légende de l'homme à la cervelle d'or. À la dame qui demande des histoires gaies. En lisant votre lettre, madame, j'ai eu comme un remords. Je m'en suis voulu de la couleur un peu trop demi-deuil de mes historiettes et je m'étais promis de vous offrir aujourd'hui quelque chose de joyeux, de follement joyeux. Pourquoi serais-je triste? Après tout, je vis à mille lieues des brouillards parisiens, sur une colline lumineuse, dans le pays des tambourins et du vin muscat. Autour de chez moi, tout n'est que soleil et musique. J'ai des orchestres de culs blancs, des orphéons de mésanges. Le matin, les courlis qui font « courli, courli ». À midi, les cigales, puis les pâtres qui jouent du fifre et les belles filles brunes qu'on entend rire dans les vignes. En vérité, l'endroit est mal choisi pour broyer du noir. Je devrais plutôt expédier aux dames des poèmes couleur de rose et des pleins paniers de contes galants. Eh bien non, je suis encore trop près de Paris. Tous les jours, jusqu'à dans mes pains, il m'envoie les éclaboussures de ses tristesses. À l'heure même où j'écris ces lignes, je viens d'apprendre la mort misérable du pauvre Charles Barbara et mon moulin en est tout en deuil. Adieu les courlis et les cigales, je n'ai plus le cœur à rien de gai. Voilà pourquoi, madame, au lieu du joli conte badin que je m'étais promis de vous faire, vous n'aurez encore aujourd'hui qu'une légende mélancolique. Il était une fois un homme qui avait une cervelle d'or. Oui, madame, une cervelle tout en or. Lorsqu'il vint au monde, les médecins pensaient que cet enfant ne vivrait pas, tant sa tête était lourde et son crâne démesuré. Il vécut cependant, et grandit au soleil comme un beau plant d'olivier. Seulement, sa grosse tête l'entraînait toujours, et c'était pitié de le voir se cogner à tous les meubles en marchant. Il tombait souvent. Un jour, il roula du haut d'un perron et vint donner du front contre un degré de marbre où son crâne sonna comme un lingot. On le crut mort. Mais en le relevant, on ne lui trouva qu'une légère blessure avec deux ou trois gouttelettes d'or caillées dans ses cheveux blonds. C'est ainsi que les parents apprirent que l'enfant avait une cervelle d'or. La chose fut tenue secrète. Le pauvre petit lui-même ne se douta de rien. De temps en temps, il demandait pourquoi on ne le laissait plus courir devant la porte avec les garçonnets de la rue. « On vous volerait mon beau trésor, » lui répondait sa mère. Alors, le petit avait grand peur d'être volé. Il retournait jouer tout seul, sans rien dire, et se trimballait lourdement d'une salle à l'autre. À 18 ans seulement, ses parents lui révélèrent le don monstrueux qu'il tenait du destin. Et comme ils l'avaient élevé et nourri jusque-là, ils lui demandèrent en retour un peu de son or. L'enfant n'hésita pas. Sur l'heure même, comment, par quel moyen, la légende ne l'a pas dit, il s'arracha du crâne un morceau d'or massif, un morceau gros comme une noix, qu'il jeta fièrement sur les genoux de sa mère. Puis, tout ébloui des richesses qu'il portait dans la tête, fou de désir, ivre de sa puissance, il quitta la maison paternelle et s'en alla par le monde en gaspillant son trésor. Du train dont il menait sa vie royalement et semant l'or sans compter, on aurait dit que sa cervelle était inépuisable. Elle s'épuisait cependant, et à mesure on pouvait voir les yeux s'éteindre, la joue devenir plus creuse. Un jour, enfin, au matin d'une débauche folle, le malheureux, resté seul parmi les débris du festin et les lustres qui pâlissaient, s'épouvanta de l'énorme brèche qu'il avait déjà faite à son lingot. Il était temps de s'arrêter. Dès lors, ce fut une existence nouvelle. L'homme à la cervelle d'or s'en alla vivre, à l'écart, du travail de ses mains, soupçonneux et craintif comme un avare, fuyant les tentations, tâchant d'oublier lui-même ses fatales richesses auxquelles il ne voulait plus toucher. Par malheur, un ami l'avait suivi dans sa solitude, et cet ami connaissait son secret. Une nuit, le pauvre homme fut réveillé en sursaut par une douleur à la tête, une effroyable douleur. Il se dressa éperdu et vit dans un rayon de lune l'ami qui fuyait en cachant quelque chose sous son manteau. Encore un peu de cervelle qu'on lui emportait. À quelque temps de là, l'homme à la cervelle d'or devint amoureux et cette fois, tout fut fini. Il aimait du meilleur de son âme une petite femme blonde qui l'aimait bien aussi, mais qui préférait encore les pompons, les plumes blanches et les jolis glands mordorés battant le long des bottines. Entre les mains de cette mignonne créature, moitié oiseau, moitié poupée, les piécettes d'or fondaient que c'était un plaisir. Elle avait tous les caprices et lui ne savait jamais dire non. Même, de peur de la peiner, il lui cacha jusqu'au bout le triste secret de sa fortune. « Nous sommes donc bien riches ?» disait-elle. Le pauvre homme répondait « Oui, bien riches !» Et il souriait avec amour au petit oiseau bleu qui lui mangeait le crâne innocemment. Quelquefois, cependant, la peur le prenait. Il avait des envies d'être avare, mais alors la petite femme venait vers lui en sautillant et lui disait « Mon mari, qui êtes si riche, achetez-moi quelque chose de bien cher !» Et il lui achetait quelque chose de bien cher. Cela dura ainsi pendant 2 ans. Puis, un matin, la petite femme mourut, sans qu'on sût pourquoi, comme un oiseau. Le trésor touchait à sa fin. Avec ce qui lui en restait, le veuf fit faire à sa chère morte un bel enterrement. Cloches à toutes volées, lourds carrosses tendus de noir, chevaux empanachés, larmes d'argent dans le velours, rien ne lui parut trop beau. Que lui importait son or maintenant? Il en donna pour l'église, pour les porteurs, pour les revendeuses d'immortels, il en donna partout, sans marchander. Aussi, en sortant du cimetière, il ne lui restait presque plus rien de cette cervelle merveilleuse, à peine quelques parcelles aux parois du crâne. Alors, on le vit s'en aller dans les rues, l'air égaré, les mains en avant, trébuchant comme un homme ivre. Le soir, à l'heure où les bazars s'illuminent, il s'arrêta devant une large vitrine dans laquelle tout un fouillis d'étoffes et de parures reluisait aux lumières, et resta là, longtemps, à regarder 2 bottines de satin bleu bordées de duvet de cygne. « Je sais quelqu'un à qui ces bottines feraient bien plaisir », se disait-il en souriant. Et ne se souvenant déjà plus que la petite femme était morte, il entra pour les acheter. Du fond de son arrière-boutique, la marchande entendit un grand cri. Elle accourut et recula de peur en voyant un homme debout qui s'accotait au comptoir et la regardait douloureusement d'un air hébété. Il tenait d'une main les bottines bleues à bordure de cygne et présentait l'autre main toute sanglante avec des raclures d'or au bout des ongles. Telle est, madame, la légende de l'homme à la cervelle d'or. Malgré ses airs de conte fantastique, cette légende est vraie d'un bout à l'autre. Il y a par le monde de pauvres gens qui sont condamnés à vivre de leur cerveau et payent en bel orfin, avec leur moelle et leur substance, les moindres choses de la vie. C'est pour eux une douleur de chaque jour. Et puis, quand ils sont là de souffrir... Thank you. et sanguinaire. Cette nuit, je n'ai pu dormir. Le mistral était en colère et les éclats de sa grande voix m'ont tenu éveillée jusqu'au matin. Balançant lourdement ses ailes mutilées qui sifflaient à la bise comme les agrès d'un navire, tout le moulin craquait. Des tuiles s'envolaient de sa toiture en déroute. Au loin, les pins serrés dont la colline est couverte s'agitaient et bruissaient dans l'ombre. On se serait cru en pleine mer. Cela m'a rappelé tout à fait mes belles insomnies d'il y a 3 ans, quand j'habitais le phare des Sanguinaires, là-bas sur la côte corse, à l'entrée du golfe d'Ajaccio. Encore un joli coin que j'avais trouvé là pour rêver et pour être seule. Figurez-vous une île rougeâtre et d'aspect farouche. Le phare à une pointe, à l'autre une vieille tour génoise où, de mon temps, logeait un aigle. En bas, au bord de l'eau, un lazaret en ruine envahi de partout par les herbes. Puis des ravins, des maquis, de grandes roches, quelques chèvres sauvages, de petits chevaux corses gambadant la crinière au vent. Enfin, là-haut, tout en haut, dans un tourbillon d'oiseaux de mer, la maison du phare, avec sa plateforme en maçonnerie blanche, où les gardiens se promènent de long en large, la porte verte en ogive, la petite tour de fonte, et au-dessus la grosse lanterne à facettes qui flambe au soleil et fait de la lumière même pendant le jour. Voilà l'île des Sanguinaires, comme je l'ai revue cette nuit en entendant ronfler mes pins. C'était dans cette île enchantée qu'avant d'avoir un moulin, j'allais m'enfermer quelquefois lorsque j'avais besoin de grand air et de solitude. Ce que je faisais, ce que je fais ici, moins encore, quand le mistral ou la tramontane ne soufflait pas trop fort, je venais me mettre entre 2 roches au ras de l'eau, au milieu des goélands, des merles, des hirondelles, et j'y restais presque tout le jour dans cette espèce de stupeur et d'accablement délicieux que donne la contemplation de la mer. Vous connaissez, n'est-ce pas, cette jolie griserie de l'âme? On ne pense pas. On ne rêve pas non plus. Tout votre être vous échappe, s'envole, s'éparpille. On est la mouette qui plonge, la poussière d'écume qui flotte au soleil entre 2 vagues, la fumée blanche de ce paquebot qui s'éloigne, ce petit corailleur à voile rouge, cette perle d'eau, ce flocon de brume, tout excepté soi-même. Oh, que j'en ai passé dans mon île, de ces belles heures de demi-sommeil et d'éparpillement. Les jours de grand vent, le bord de l'eau n'étant pas tenable, je m'enfermais dans la cour du lazaret, une petite cour mélancolique, tout embaumée de romarin et d'absinthe sauvage. Et là, blotti contre un pan de vieux mur, je me laissais envahir doucement par le vague parfum d'abandon et de tristesse qui flottait avec le soleil dans les logettes de pierre, ouvertes, tout autour comme d'anciennes tombes. De temps en temps, un battement de porte, un bond léger dans l'herbe. C'était une chèvre qui venait brouter à l'abri du vent. En me voyant, elle s'arrêtait interdite et restait plantée devant moi, l'air vif, la corne haute, me regardant d'un œil enfantin. Vers 5 heures, le porte-voix des gardiens m'appelait pour dîner. Je prenais alors un petit sentier dans le maquis grimpant à pic au-dessus de la mer. Et je revenais, lentement, vers le phare, me retournant à chaque pas sur cet immense horizon d'eau et de lumière qui semblait s'élargir à mesure que je montais. Là-haut, c'était charmant. Je vois encore cette belle salle à manger à larges dalles, à lambris de chêne, la bouillabaisse fumant au milieu, la porte grande ouverte sur la terrasse blanche et tout le couchant qui entrait. Les gardiens étaient là, m'attendant pour se mettre à table. Il y en avait 3, un Marseillais et 2 Corses, tous 3 petits, barbus, le même visage tanné, crevassé, le même pelone en poil de chèvre, mais d'allure et d'humeur entièrement opposées. À la façon de vivre de ces gens, on sentait tout de suite la différence des 2 races. Le Marseillais, Industrieux et vif, toujours affairé, toujours en mouvement, courait l'île du matin au soir, jardinant, pêchant, ramassant des œufs de gouaille, s'embusquant dans le maquis pour traire une chèvre au passage, et toujours quelques aïolis ou quelques bouillabaisses en train. Les Corses, eux, en dehors de leur service, ne s'occupaient absolument de rien. Ils se considéraient comme des fonctionnaires et passaient toute leur journée dans la cuisine à jouer d'interminables parties de scopa, ne s'interrompant que pour rallumer leur pipe d'un air grave et hacher avec des ciseaux dans le creux de leurs mains de grandes feuilles de tabac vert. Du reste, Marseillais et Corses, tous trois de bonnes gens, simples, naïfs et pleins de prévenance pour leur hôte, quoiqu'au fond, il dut leur paraître un monsieur bien extraordinaire. Pensez donc, venir s'enfermer au phare pour son plaisir, eux qui trouvent les journées si longues et qui sont si heureux quand c'est leur tour d'aller à terre. Dans la belle saison, ce grand bonheur leur arrive tous les mois. 10 jours de terre pour 30 jours de phare, voilà le règlement. Mais avec l'hiver et les gros temps, il n'y a plus de règlement qui tienne. Le vent souffle, la vague monte. Les sanguinaires sont blanches d'écume et les gardiens de service restent bloqués 2 ou 3 mois de suite, quelquefois même dans de terribles conditions. Voici ce qui m'est arrivé à moi, monsieur, me contait un jour le vieux Bartoli pendant que nous dînions. Voici ce qui m'est arrivé il y a 5 ans à cette même table où nous sommes, un soir d'hiver, comme maintenant. Ce soir-là, nous étions que 2 dans le phare, moi et un camarade qu'on appelait Chico. Les autres étaient à terre, malades, en congé, je ne sais plus. Nous finissions de dîner, bien tranquille. Tout à coup, voilà mon camarade qui s'arrête de manger, me regarde un moment avec de drôles yeux et pouf, tombe sur la table, les bras en avant. Je vais à lui, je le secoue, je l'appelle. Oh, Tché ! Oh, Tché ! Rien. Il était mort. Vous jugez quelle émotion. Je restais plus d'une heure stupide et tremblant devant ce cadavre, puis, subitement, cette idée me vient. Et le phare. Je n'eus que le temps de monter dans la lanterne et d'allumer. La nuit était déjà là. Quelle nuit, monsieur. La mer, le vent n'avaient plus leur voix naturelle. À tout moment, il me semblait que quelqu'un m'appelait dans l'escalier. Avec cela, une fièvre, une soif. Mais vous ne m'auriez pas fait descendre. J'avais trop peur du mort. Pourtant, au petit jour, le courage me revint un peu. Je portais mon camarade sur son lit, un drap dessus, un bout de prière, et puis, vite, aux signaux d'alarme. Malheureusement, la mer était trop grosse. J'eus beau appeler, appeler, personne ne vint. Me voilà seule dans le phare avec mon pauvre Tchéco. Et Dieu sait pour combien de temps. J'espérais pouvoir le garder près de moi jusqu'à l'arrivée du bateau, mais au bout de 3 jours, ce n'était plus possible. Comment faire ? Le porter dehors ? L'enterrer ? La roche était trop dure et il y a tant de corbeaux dans l'île. C'était pitié de leur abandonner ce chrétien. Alors, je songeais à le descendre dans une des logettes du lazaret. Ça me prit toute une après-midi, cette triste corvée-là. Et je vous réponds qu'il m'en fallut du courage. Tenez, monsieur, encore aujourd'hui, quand je descends de ce côté de l'île par une après-midi de grand vent, il me semble que j'ai toujours le mort sur les épaules. Pauvre vieux Bartoli, la sueur lui en coulait sur le front rien que d'y penser. Nos repas se passaient ainsi, à causer longuement le phare, la mer, des récits de naufrages, des histoires de bandits corses. Puis, le jour tombant, le gardien du premier quart allumait sa petite lampe, prenait sa pipe, sa gourde, un gros plutarque à tranches rouges, toute la bibliothèque des sanguinaires, et disparaissait par le fond. Au bout d'un moment, c'était dans tout le phare un fracas de chaînes, de poulies, de gros points d'horloge qu'on remontait. Moi, pendant ce temps, j'allais m'asseoir dehors, sur la terrasse. Le soleil, déjà très bas, descendait vers l'eau, de plus en plus vite, entraînant tout l'horizon après lui. Le vent franchissait, l'île devenait violette. Dans le ciel, près de moi, un gros oiseau passait lourdement. C'était l'aigle, de la tour génoise qui rentrait. Peu à peu, la brume de mer montait. Bientôt, on ne voyait plus que l'ourlet blanc de l'écume autour de l'île. Tout à coup, au-dessus de ma tête, jaillissait un grand flot de lumière douce. Le phare était allumé. Laissant toute l'île dans l'ombre, le clair rayon allait tomber au large sur la mer. Et j'étais là, perdue dans la nuit, sous ces grandes ondes lumineuses qui m'éclaboussaient à peine en passant. Mais le vent franchissait encore, il fallait rentrer. À tâtons, je fermais la grosse porte, j'assurais les barres de fer, puis, toujours tâtonnant, je prenais un petit escalier de fonte qui tremblait et sonnait sous mes pas. Et j'arrivais au sommet du phare. Ici, par exemple, il y en avait de la lumière. Imaginez une lampe carcel gigantesque à 6 rangs de mèches autour de laquelle pivotent lentement les parois de la lanterne. Les unes remplies par une énorme lentille de cristal, les autres ouvertes sur un grand vitrage immobile qui met la flamme à l'abri du vent. En entrant, j'étais éblouie. Ces cuivres, ces étains, ces réflecteurs de métal blanc, ces murs de cristal bombé qui tournaient avec de grands cercles bleuâtres, tout ce miroitement, tout ce cliquetis de lumière me donnait un moment de vertige. Peu à peu, cependant, mes yeux s'y faisaient. Et je venais m'asseoir au pied même de la lampe, à côté du gardien qui lisait son Plutarque à haute voix, de peur de s'endormir. Au dehors, le noir, l'abîme. Sur le petit balcon qui tourne autour du vitrage, le vent court comme un fou en hurlant. Le phare craque, la mer ronfle. À la pointe de l'île, sur les brisants, les lames font comme des coups de canon. Par moments, un doigt invisible frappe au carreau. Quelque oiseau de nuit que la lumière attire et qui vient se casser la tête contre le cristal. Dans la lanterne, étincelante et chaude, rien que le crépitement de la flamme, le bruit de l'huile qui s'égoutte, de la chaîne qui se dévide, et une voix monotone, psalmodiant la vie de Démétrius de Phalère. À minuit, le gardien se levait, jetait un dernier coup d'œil à ses mèches, et nous descendions. Dans l'escalier, on rencontrait le camarade du second quart qui montait en se frottant les yeux. On lui passait la gourde, le Plutarque. Puis, avant de gagner nos lits, nous entrions un moment dans la chambre du fond, tout encombrée de chaînes, de gros poids, de réservoirs d'étain, de cordages. Et là, à la lueur de sa petite lampe, le gardien écrivait sur le grand livre du phare, toujours ouvert, « Minuit, grosse mer, tempête, navire au large. » Thank you.